l'Esprit public, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'Esprit public, au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire sur l'Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, Thierry Pech, directeur général de la Fondation Terra Nova, et Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nous commencerons par nous intéresser au rapport entre la France et la Russie. Vladimir Poutine a annoncé le report de sa visite à Paris prévue le 19 octobre. Au nom de la pression morale que Paris entend exercer sur Moscou, ce report avait été envisagé publiquement par François Hollande. Si Jean-Marc Ayrault a déclaré ne déceler aucune rupture ni complaisance dans ce report, Sergueï Lavrov, son homologue russe, lui reproche d'avoir quitté Moscou le 6 octobre pour rencontrer John Kerry et, le jour d'après, d'avoir accusé la Russie de tous les péchés mortels sans que personne n'ait discuté avec eux. Le porte-parole du Kremlin a par ailleurs déclaré que Vladimir Poutine était prêt à se rendre à Paris à une date qui conviendra à François Hollande. Le 8 octobre, au Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie avait opposé son veto, le cinquième sur le dossier depuis 2011, opposé son veto au texte français en faveur du cessez-le-feu en Syrie. La délégation russe avait par ailleurs proposé une résolution concurrente qui a été rejetée par 9 pays sur 15, dont la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, la Chine s'étant abstenue. Tout en appelant à la fin des hostilités en Syrie, le texte russe ne faisait aucune mention de l'arrêt des bombardements en cours sur la ville d'Alep. John Kerry et Jean-Marc Ayrault ont dénoncé les crimes de guerre qui se déroulent en Syrie. Nous avons tous en mémoire Guernica, Srebrenica et Grozny, a déclaré le ministre français, ce qui se déroule à Alep et la répétition de cette tragédie. Sergueï Lavrov, le dimanche 9, a dénoncé à la télévision russe un changement fondamental dans la russophobie agressive. Il ne s'agit pas seulement de rhétorique, a-t-il souligné, mais cela se traduit par des mesures agressives qui concernent nos intérêts nationaux et menacent notre sécurité. Le 12 octobre, François Hollande et Angela Merkel ont à nouveau exhorté le président russe au cessez-le-feu en Syrie lors d'une conférence téléphonique. La Syrie est au carrefour d'intérêts stratégiques importants pour la Russie. Son territoire, qui concentre d'importants gisements gaziers et pétroliers, est central dans l'extraction et l'acheminement de ses ressources, qui participent significativement à la conflictualité de la région, car elles impliquent des intérêts nationaux antagonistes, régionaux, russes, européens et au-delà. L'économie russe, très dépendante des matières premières, est plongée dans la période de récession la plus longue depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Le vice-ministre de la Défense, Nikolai Pankov, a annoncé le 10 octobre que la base navale russe de Tartous, au nord-est de la Syrie, deviendra permanente. Sur cette question, François Bujon de l'Étang.
C'est un sujet qui n'est pas commode parce que, pardon, il y a des éléments de psychodrame là-dedans, mais il y a aussi des éléments de tragédie et des éléments de vraie crise internationale. Et pour essayer de démêler un petit peu cette crise et la semaine qui vient de s'écouler, il faut regarder à la fois Alep, Moscou et Paris. Alep d'abord, parce que la guerre en Syrie continue, elle fait rage littéralement. La bataille d'Alep, qui a connu des temps de rémission, je dirais, et des temps forts, et dans un temps malheureusement très très fort, c'est une vraie tragédie qui s'y déroule, avec des bombardements massifs de l'armée syrienne et de l'aviation russe. L'aviation russe jouant dans ces bombardements un rôle tout à fait de premier plan. Et parce que tous les efforts pour essayer de mettre fin ou d'endiguer ce bain de sang, jusqu'à présent, ont échoué. Nous avions parlé il y a quelques semaines des tentatives pour promouvoir un cessez-le-feu en Syrie. Malheureusement, les pessimistes ont eu raison, il n'a duré qu'une dizaine de jours. Et les choses ont repris de plus belle aujourd'hui avec une très très grande offensive syro-irano-hezbollo-russe sur Alep. Et Alep, on voit bien la méthode utilisée par Poutine. On l'a déjà vu dans d'autres cas. Je rappelle par exemple la deuxième guerre de Tchétchénie. il pousse son avantage. Quand il est à l'attaque, Poutine, il va jusqu'au bout, il veut pousser son avantage. En Tchétchénie, il fallait détruire les opposants tchétchènes. Ils ont détruit Grozny, qui est une ville qui a été littéralement rasée et vidée de sa population. Et ce sont les mêmes méthodes qui sont malheureusement appliquées à Alep. Bachar veut récupérer Alep, il veut pouvoir l'occuper, il estime que c'est indispensable à la constitution de cet axe qui va d'Alep à Damas en passant par la côte syrienne et le pays alaouite, ce qu'on appelle la Syrie utile par opposition à celle du désert qui est un peu abandonnée à Daesh et aux rebelles sunnites, et Poutine est tout à fait décidé à le seconder dans cette entreprise. Alors ça tient largement à l'absence, à la faiblesse des États-Unis. Mais ça, c'est également typique de la méthode Poutine. Et on l'a vu, par exemple, avec l'aventure de Crimée en 2014. C'est parce qu'il avait vu, à l'occasion de la crise d'août 2013, sur la ligne rouge en Syrie, que les États-Unis étaient faibles et finalement ne mettaient pas leurs menaces à exécution, qu'il a immédiatement poussé son avantage en Crimée, puis ensuite en Ukraine. Là, les États-Unis sont occupés avec leur élection présidentielle. Le président Obama, qui ne lui fait pas peur de toute façon, n'a plus que quelques mois devant lui. Il est ce qu'on appelle aux États-Unis un « lame duck », canard boiteux qui n'a plus que quelques mois. Donc il en profite et il pousse tout à fait son avantage. Alors il veut aider Bachar dans sa politique et il va y parvenir. Il a déjà engrangé en Syrie énormément d'avantages. Il s'est imposé. Il a montré qu'il était une puissance incontournable au Moyen-Orient. Il a réussi à rétablir le dialogue direct avec Washington dont il était nostalgique. Voilà, il continue, il pousse et il va sans doute continuer à pousser jusqu'à ce qu'Alep connaisse le sort de Grozny. Je suis malheureusement très, très pessimiste sur l'avenir. Alors ça, c'est la partie Alep, si vous voulez. Si on regarde la partie, ce que j'appelle la partie Moscou, c'est-à-dire proprement russe, Poutine est plus fort aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Les élections à la Douma viennent d'avoir lieu, évidemment sans surprise. Et elles ont reconduit une majorité encore plus grande de son parti Russie Unie. La propagande, il faut voir ce que c'est à Moscou. Le radio Moscou tous les jours, la propagande est à fond, c'est-à-dire que on explique que l'Occident cherche à humilier la Russie, qu'elle cherche à l'encercler, qu'à Alep on lutte contre des terroristes en Syrie, comme on l'a fait d'ailleurs en Tchétchénie. On ne parle jamais de victimes civiles, on ne donne jamais de chiffres, on ne parle pas de réfugiés. Le russe de base n'a pas les moyens de savoir ce qu'est la réalité en Syrie. Et puis il y a une espèce d'hystérisation du débat qui rappelle évidemment l'époque soviétique. C'est Monsieur Poutine a des méthodes qui ont été apprises à bonne école. Alors, c'est à la fois l'utilisation de ce que j'appelle la fibre paranoïaque, c'est-à-dire on nous encercle, la CIA ne cesse de comploter contre nous, les Américains sont partout. On parle de Troisième Guerre mondiale, très ouvertement maintenant, dans la presse russe, et tout est orchestré en ce sens, pour hystériser le débat. Il y a eu plusieurs choses dont on a peu parler en France, mais qui sont des décisions prises par les Russes en matière de contrôle des armements, qui sont tout à fait sérieuses. Par exemple, la décision d'abandonner l'accord avec les Américains sur le recyclage du plutonium militaire à usage civil, et aussi la décision de déployer dans l'enclave de Kaliningrad des missiles Iskander, qui sont des missiles qui peuvent porter une charge nucléaire et qui peuvent atteindre Berlin. Ce sont des missiles comportés. Tout ça, ça fait partie d'une espèce de d'hystérisation du débat qui permet, en outre, de faire diversion par rapport aux difficultés économiques croissantes que connaissent les soviétiques dans leur vie courante. Pardon, je m'excusais ce lapsus freudien. Je veux dire les Russes.
Michaela Wiegel.
Oui, alors j'aimerais revenir à une minute après cet excellent exposé à cette dimension proprement franco-russe, parce que je crois que c'est très parlant sur ce qui se passe en Europe en général. On est en quelque sorte en train d'essayer de liquider l'héritage de l'ère Sarkozy. Il y a eu, on a tous suivi ça, l'affaire des Mistral, et maintenant il y a l'affaire de la cathédrale russe. Le président Sarkozy, à son époque, avait promis à Poutine, en raisonnant que c'était un partenaire fiable, cette superbe terrain qui était avant pour le site de Météo France et qui est donc devenu le terrain au bord de la Seine, avec vue sur la Tour Eiffel, de cette énorme et très visible cathédrale russe. Et l'objectif de Vladimir Poutine, c'était justement d'inaugurer le centre culturel. Bon, il accepte quand même un tout petit peu la laïcité à la française, donc non pas la partie religieuse de la cathédrale, mais le centre culturel russe qui est attenante. Il voulait l'inaugurer avec François Hollande. Et en fait, sa colère et son renoncement venaient surtout du fait que François Hollande a dit « hors de question, je parlerai Syrie avec vous, mais j'irai plus vous accompagner dans ce complexe qui est vraiment conçu par Moscou, par Poutine, comme un nouveau moyen de montrer que il est devenu en quelque sorte le chef de la chrétienté. Et donc ça, c'est un symbole assez fort et auquel il y a beaucoup de gens sensibles, notamment à droite et à l'extrême droite. Donc on voit bien qu'il y a des hommes politiques comme François Fillon, par exemple, Nicolas Sarkozy, mais plus loin à droite, Marine Le Pen, qui en plus profite des crédits russes généreux pour financer sa campagne électorale. Donc on voit que ce symbole, la Russie comme défenseur en quelque sorte de la chrétienté, emportait beaucoup à Poutine. Alors, cette dimension franco-russe, à cette dimension se rajoute une dimension vraiment européenne. Et là, c'est très intéressant de voir le rôle de l'Allemagne. L'Allemagne qui est un peu entre les deux. On a un milieu d'affaires très russophile, puisqu'on dépend beaucoup de la Russie. Mais on a aussi une classe politique qui est quand même beaucoup moins favorable et beaucoup plus méfiant vis-à-vis de Poutine, et notamment en la personne de la chancelière Angela Merkel. Ils ont un passé un peu commun. Angela Merkel, elle a vécu en RDA quand Poutine y était employé comme un des agents de la KGB. Ils parlent tous les deux parfaitement la langue de l'autre, mais ça les rapproche pas forcément. Au contraire, ça crée une grande méfiance. Alors, Angela Merkel était surtout préoccupée par la situation en Ukraine. Parce que, et c'est là où je pense que ce qu'on lit toujours, cette nouvelle guerre froide, elle a quand même une différence très importante. Parce que la guerre froide, en fait, c'était un moyen à l'époque pour l'Union soviétique de rester, de garantir le statu quo. Ça a engendré la fameuse Ostpolitik, c'est-à-dire des aménagements, notamment en RDA pour les gens. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. On n'est plus du tout dans une optique de préservation du statu quo côté russe, mais dans une restauration de l'ancienne puissance, c'est-à-dire l'objectif affiché, exprimé de Poutine, c'est retrouver la grandeur et ses zones d'influence perdues. Et donc, on voit bien que tout ça, ce puzzle qu'on voit avec la Crimée, mais aussi avec l'Ukraine, on voit très bien que cette nouvelle guerre froide est vraiment nouvelle. C'est pas du tout la même. Et l'Allemagne hésite un petit peu à vraiment accepter cette nouveauté, en quelque sorte, cette nouvelle dimension. Et on voit bien que l'Allemagne a du mal à trouver en plus des partenaires en la France, en la Grande-Bretagne, pour venir mener à bout une politique de méfiance constructive, en quelque sorte.
Thierry Pêche.
Il est clair que Poutine a un comportement agressif, menaçant, quand même, si on met en série des événements depuis quelques années, Crimée, Ukraine, Syrie, il est dans une attitude menaçante. Ce qui, moi, m'effraie, si vous voulez, c'est que en France, il y a une espèce de russophilie multiforme qui rend aveugle à un certain nombre de choses. Elle est multiforme parce que, de gauche à droite, elle a des raisons assez différentes de trouver Poutine sympathique. Alors à l'extrême gauche, vous avez un vieil anti-américanisme que reprend Mélenchon, qui était très enraciné dans le Parti communiste français. Vous avez aussi un anti-atlantisme d'origine gaulliste, qui est un peu ce que reprend Fillon. Vous avez une tentation de d'empathie pour le souverainisme nationaliste de Poutine chez les républicains durs ou les partisans du Front National. Une partie de nos milieux d'affaires voit la Russie plutôt d'un bon œil parce qu'ils en ont besoin. Et enfin, l'argent russe finance un certain nombre de choses, tout le monde le sait, notamment le Front National, mais pas que le Front National. Et donc il y a une espèce de coalition d'intérêts, de passions, d'imaginaires pour trouver la Russie de Poutine toujours plus sympathique qu'elle n'est. Et pour ne pas voir ce qui est en train de se passer. Parce que ce qui est en train de se passer est vraiment honteux. C'est un bain de sang à Alep. Il y a des enfants qui meurent sur des brancards. Il y a des bombardements en permanence. Alors je sais bien que et parmi les gens qui nous écoutent, certains nous écriront, Philippe, vous le savez, on reçoit régulièrement des courriers quand on parle de la Russie, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, pour nous dire c'est la propagande occidentale, c'est la voix de Washington qui parle au micro de l'esprit public. Non, je suis navré, les informations dont se prévalent les gens qui disent ça ne sont ni plus nombreuses, ni plus solides que les nôtres. En réalité, Alep est un bain de sang, et c'est un bain de sang parce que les Russes ont décidé que ce serait un bain de sang. Et parce qu'en gagnant la bataille d'Alep, ils gagnent une partie de la guerre telle qu'ils estiment devoir la gagner, c'est-à-dire la Syrie utile, comme disait François à l'instant. Donc ça, c'est notre cécité à la menace russe est très embêtante, parce que c'est une menace. On peut dire c'est un partenaire, bien sûr que c'est un partenaire, on a besoin d'un dialogue, il vaut mieux le dialogue avec la Russie qu'autre chose, mais c'est un partenaire menaçant. Menaçant en Ukraine, menaçant en Syrie, menaçant parce que de Kaliningrad on est à un jet de missiles de Berlin, menaçant parce qu'on a intercepté deux bombardiers russes au large de la Bretagne le 22 septembre dernier, menaçant pour toutes ces raisons. Bon. Alors bien sûr, la Russie n'est jamais aussi forte qu'on le pense. Elle est faible économiquement. Je ne vais pas rappeler les chiffres, mais je veux dire, c'est un colosse au pied d'argile, comme elle l'était du temps de l'URSS. Et ses pieds ont fini par se dérober sous elle à l'époque. Hein. C'est un ensemble qui est diplomatiquement isolé. Mais je trouve que les Occidentaux n'ont pas assez conscience de cette menace, en particulier les Français. Mais un mot pour finir sur les Américains. François, vous avez fait l'apologie une fois à ce micro de la diplomatie d'Obama, et je pense que sur ce dossier, le bilan n'est pas glorieux. Je pense qu'au contraire, quand on fera le bilan de la diplomatie américaine sur l'affaire syrienne, on devra y mettre beaucoup de nuances.
Nicole Lisotto.
Oui, sur la guerre froide, il est clair que l'objectif stratégique de Poutine, c'est de réinstaller la guerre froide et de définir ainsi ses relations avec l'Occident / les États-Unis. Mais c'est une guerre froide curieuse, parce que c'est une guerre froide presque unilatérale. Il est pratiquement seul à jouer ce scénario et il n'a pas vraiment de répondant à l'extérieur. C'est une guerre froide sans Occident. Alors, il y a énormément de signes, François, vous en avez parlé, qui montrent que la Russie veut véritablement, entre guillemets, militariser, menacer l'Occident, les incursions dans les espaces aériens, le déploiement de missiles, etc., etc. Mais il est presque seul à jouer cette partition. Les Américains sont absents. Parce que donc la campagne présidentielle fait que Obama a d'autres soucis et donc il a quelques mois d'opportunités qui vont s'arrêter. On verra après ce que ça donnera. Mais les Américains sont absents. Les Américains ont entre guillemets renoncé à user de la force. Et là, le refus des Américains de traiter militairement l'usage de l'arme chimique par le gouvernement syrien en août 2013 est un signal très fort d'absence de répondant occidental.
Et là, il n'était pas en campagne, Nicole.
Il n'était pas en campagne. Oui, en plus. Et les Américains sont absents et les Européens sont divisés. Les Européens sont très divisés sur la Russie, entre un certain nombre de pays qui ont peur et qui ont raison d'avoir peur, les Baltes et Polonais, parce qu'ils savent ce que c'est que l'occupation russe depuis 60 ans. Et puis d'autres pays européens qui sont peut-être plus réalpolitiques, plus cyniques, qui ont besoin de faire des affaires. Et même si aujourd'hui on maintient une espèce d'unité sur les sanctions, les Européens sont très divisés. Du coup, Poutine se retrouve seul. Il est tenté d'aller de plus en plus loin dans la provocation pour que ça marche, c'est-à-dire pour que ce climat de guerre froide prenne effectivement comme structure du nouvel état du monde. Alors on peut s'interroger pourquoi il veut faire ça. Parce qu'après tout, son économie va très mal, moins 5% du PIB l'année dernière. Les sondages sont bons, mais quand même, on a vu aux élections de septembre 2016 que le taux d'abstention augmente considérablement. Donc il aurait peut-être plutôt intérêt à jouer la carte « je suis le sauveur d'un ordre international menacé » par le chaos. Pourquoi fait-il ça? Je crois qu'il y a plusieurs raisons qui sont intéressantes pour comprendre la politique de Poutine. Premièrement, il se sent bien dans la guerre froide. C'est son origine, c'est sa culture. Il a été au KGB pendant toute sa formation. Et puis l'ensemble de l'élite politique aux affaires russes connaît ce climat d'affrontement brutal. C'est leur milieu naturel. Deuxièmement, ça marche. Les sondages restent bons, il gagne les élections sur cette dénonciation. Il y a cette phrase extraordinaire de Poutine récemment qui dit « Les Américains ne veulent pas nous humilier, ils veulent nous soumettre ». C'est-à-dire que cette guerre froide lui permet de reprendre cette espèce d'idéologie. La Russie, c'est ni maître ni modèle, ni maître ni modèle. Donc il y a quelque chose de très fort là-dessus. Donc ça marche, et puis surtout parce que la guerre froide repose sur la force. Or, s'il y a un atout que possède la Russie aujourd'hui, c'est la force. Il n'a que ça. Il n'a pas l'attractivité du modèle, il n'a pas la séduction de la réussite économique, il n'a que la force, et il l'utilise avec un certain succès en Ukraine pour déstabiliser l'ordre européen et maintenir, je ne pense pas qu'il veuille attaquer l'Europe de l'Ouest, mais il veut maintenir un état de guerre latente infra-conventionnelle, et il l'utilise également au Moyen-Orient avec un certain succès, puisqu'il a rétabli Bachar el-Assad dans son pouvoir. Et donc, je crois que Poutine a tout intérêt à maintenir ce climat de guerre froide. J'ai une petite différence avec Michaela. Ce n'est pas... Je crois que, effectivement, c'est une guerre froide pour changer les choses en Europe. Mais c'est une guerre froide pour consolider les choses au Moyen-Orient. Poutine a une stratégie de contestation de l'ordre démocratique en Europe et de renforcement de l'ordre étatique au Moyen-Orient. Donc c'est un peu sur les deux tableaux. Mais je crois qu'il a effectivement à gérer ça. Et toute la question sera, effectivement, de savoir si les Européens, et les Américains aussi, mais d'abord les Européens, si on est capable d'inventer autre chose dans notre relation avec la Russie que la guerre froide, où il faut qu'ils deviennent des démocraties. Si on n'est pas capable de trouver une troisième fois, il a gagné.
Permettez-moi de vous faire observer que vous avez évoqué Berlin, vous avez évoqué l'Europe, vous avez évoqué Washington, mais vous n'avez pas évoqué la France, qui est à l'origine de ce... en tout cas, de notre choix d'un sujet, qui est la visite ratée à Paris. François-Bujon de l'Étang.
Justement, je voulais y venir. Et Thierry a évoqué la France en parlant de la russophilie en France, qui va de Mélenchon à Marine Le Pen. Et la russophilie ne me choque pas. Je suis russophile, très russophile. La culture russe mérite effectivement beaucoup de respect, beaucoup d'intérêt. C'est la poutinophilie qui est plus inquiétante que la russophilie. Que la Russie construise une cathédrale sur les bords de la Seine, pourquoi pas, après tout. Le problème n'est pas là, le problème c'est celui de la poutinophilie. Et il est beaucoup plus grave. Et ça me fascine et ça m'interpelle, comme on dit dans le langage moderne. Quand j'entends M. Fillon ou le président Giscard d'Estaing se faire littéralement les avocats ou les apologues, pour reprendre le mot dont vous m'accusiez à propos d'Obama, d'ailleurs j'y reviendrai parce que cette accusation est inexacte, je suis profondément choqué. Quand j'entends comment ils interprètent les événements d'Ukraine, les événements de Maïdan, etc. Je m'interroge. Et je ne comprends pas Très bien, les raisons de cette poutinophilie. Il s'y mélange beaucoup de choses, c'est très difficile à analyser. Il y a du gaullisme, je dirais, mal digéré en réalité là-dedans, c'est-à-dire l'idée que nous sommes trop américanophiles et que la Grande Alliance à l'Est a une vertu. On voit très bien les relents d'histoire qui s'y mêlent, mais ils sont tout à fait étonnants. Alors, c'est une incidente. Je voulais en réalité revenir surtout sur l'épisode diplomatique de la semaine dernière, parce que je le trouve très important et je trouve que la diplomatie française, qu'on accuse beaucoup de passivité dans l'affaire syrienne ou au Proche-Orient d'une façon générale, pour une fois, s'était mobilisée, finalement, pour les raisons humanitaires, d'ailleurs, parce qu'il meurt des gens, des enfants, etc., sous les bombes tout le temps. La diplomatie française s'est mobilisée, elle a cherché à élaborer une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies qui demandait l'arrêt immédiat des bombardements sur Alep. Elle a employé des mots très très forts, elle a assimilé Alep à Guernica, elle a parlé de crimes de guerre, elle a parlé de cour internationale, de cour criminelle internationale. Je n'avais pas entendu la diplomatie française utiliser ce type d'argument depuis quelque temps. Alors ça nous a valu, bien entendu, un veto russe sur la résolution franco-espagnole, puisque les Espagnols nous ont aidés à l'élaborer, il faut leur rendre hommage. C'est le quatrième veto russe sur la Syrie au Conseil de sécurité. C'est donc devenu maintenant vraiment un comportement absolument typique. Et au fond, que la France en ait été froissée, puisqu'elle l'a été, c'est très sensible. Je vois très bien à quel point le nouveau ministre des Affaires étrangères, M. Ayrault, par exemple, s'est personnellement investi dans cette affaire, importe très peu à M. Poutine. Au fond, que la France soit une victime collatérale de ce qui se passe en Russie, ça ne l'arrête pas une seule seconde. Bien sûr, il se faisait une fête depuis des mois avec le patriarche Kirill, le patriarche de Moscou, de venir inaugurer la cathédrale de la Sainte Trinité, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, sur les bords de la Seine. C'était en effet, Mikaela en a très bien parlé, c'était pour eux du soft power bien étalé, bien... Et ils s'en faisaient une fête. Et d'ailleurs, je suis témoin du fait que depuis des mois, le Quai d'Orsay s'interrogeait en se disant « Seigneur Jésus, comment va-t-on traiter le problème de l'accueil d'un chef d'État d'un pays sous sanction ?» C'est quand même pas si facile comme... Bon, la question ne s'est pas posée puisque c'est lui qui a décidé de ne pas venir. Et alors là où nous avons peut-être curieusement agi, c'était de lui laisser se donner les gants de nous infliger le camouflet, de dire « Président Hollande n'est pas prêt à me voir, je viendrai quand il sera prêt ». Ce n'était pas dit très gentiment, ni très charitablement, c'était assez méprisant dans le ton, et peut-être au fond, c'est la seule réserve que je fais sur la diplomatie française à laquelle je donne quitus sur cette affaire, il n'était pas très bon d'avoir étalé publiquement que l'Élysée s'interrogeait sur l'opportunité de cette visite et qu'il hésitait.
Nicole Niesoto.
Oui, deux points sur cet incident diplomatique. D'abord sur l'inauguration par un président de la République française d'un site religieux.
Moi, c'était pas tout à fait ça.
C'est le centre culturel.
Il inaugurait le centre culturel.
C'est le centre culturel.
C'est une longue histoire. Si vous voulez, on peut raconter l'histoire.
Trompés,
oui, c'est un centre spirituel et culturel russe. C'est ainsi qu'on l'appelle officiellement, pour lequel la Russie avait demandé le statut diplomatique. D'ailleurs, elle l'a obtenu pour quelques personnes, qui au départ devait être une cathédrale orthodoxe, mais qui avait été acceptée telle quelle par M. Sarkozy. Mais quand Bertrand Delanoë est devenu maire de Paris et qu'il a vu les plans qu'on lui proposait, il a refusé cette espèce d'ostentatoire culturel et le projet a été refait par Wilmotte, qui est très beau d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est assez réussi sur le plan architectural. Depuis, donc, les Russes ont accepté de modérer, mais ça s'appelle quand même centre spirituel et culturel. Il y a une cathédrale dedans et le président de la République devait l'inaugurer. Ce qui, moi, indépendamment de la diplomatie française, me choque. Je ne vois pas pourquoi un président de la République devrait inaugurer quelque site religieux que ce soit. Quelque site religieux que ce soit, ce n'est pas son rôle. Il pouvait parfaitement aller avec Poutine inaugurer l'exposition qui devait avoir lieu à la Fondation Vuitton. Il pouvait faire le recevoir à l'Élysée.
Il vaut mieux honorer Bernard Arnault, vous avez raison, que la Sainte Trinité.
Ah, bah, écoutez, moi ça me choque, je ne vois pas. Alors après, on ira inaugurer telle mosquée dans Paris, telle synagogue ailleurs, je ne vois pas. Ce n'est pas le rôle du président de la République. République. Ça, c'est mon premier point. Mais deuxième point, sur l'incident diplomatique, moi, je trouve aussi que la France joue une partition qui est petite, mais qu'elle la joue bien. Je rappelle que sur l'Ukraine, d'abord sur la première crise avec la Russie, sur la Géorgie, la guerre en Géorgie en 2008, c'est quand même la France, alors de Nicolas Sarkozy à l'époque, mais qui a été en première ligne au nom de l'Union européenne et qui a permis la mise en œuvre d'un cessez-le-feu. Sur l'Ukraine, c'est la France et l'Allemagne, donc toujours dans une perspective européenne, qui ont élaboré les accords de Minsk qui permettent de maintenir cette espèce de zone grise en Ukraine. Et sur la Syrie, on essaye, mais là, effectivement, on est tout seul. Donc, je dirais que la France n'a pas de carte quand elle est nationale, mais quand elle est à travers le prisme européen, elle en a encore.
Thierry Pêche.
Un mot sur le problème diplomatique de la venue de Poutine à Paris ou pas. Je pense qu'Hollande a plutôt bien agi. Il valait mieux que ce soit Poutine qui prenne la responsabilité de ne pas venir. Il valait mieux le lui faire dire. La situation eût été plus complexe si Paris avait dit non, merci, ne venez pas, nous sommes résolument fâchés. Il vaut mieux maintenir tout de même le lien et la discussion ouvert. Et de ce point de vue-là, le fait que Poutine n'ait pas complètement renoncé à aller à Berlin le 19 octobre pour parler de la situation ukrainienne, le fait qu'il ait dit je viendrai lorsque le président français sera à l'aise, au moins il y a encore du dialogue et c'est pas plus mal. Sur l'inauguration d'un lieu de culte, enfin qui est aussi un lieu de culte par un président de la République, je vous rappelle Nicole que cette initiative avait été prise par Nicolas Sarkozy, qui n'était pas gêné à l'idée d'aller à Saint-Jean-du-Latran déclarer son désir d'une laïcité positive, ouverte. C'était une autre époque. Le candidat Sarkozy aujourd'hui a bien changé sur ces sujets.
Lui, il est chanoine de Saint-Jean-de-Latran, comme il est co-prince d'Andorre.
Non, il entre, comme le président Hollande. Ce n'est pas vrai. Il l'est s'il le souhaite. Lui le souhaitait. D'autres ne l'avaient pas souhaité avec la même ardeur. Un dernier mot pour m'expliquer de l'accusation d'apologie de la politique d'Obama.
Oui, je trouve ça sévère. Je n'ai jamais fait l'apologie de la politique d'Obama.
Je me suis fait
l'avocat de la défense.
Préciser. Ultérieure, bon, parce que je pense que nous avons encore à dire sur cette question. Michaël Avigal, sur la question de la Syrie.
Oui, je voulais rajouter à cette séquence diplomatique un aspect qui, d'ailleurs, n'a pas attiré beaucoup l'attention en France. Et pourtant, c'était important, à mon avis, parce que en même temps, François Hollande s'est fâché tout vert avec la Pologne. Il a annulé sa visite prévue. Il a demandé aussi à son ministre de la Défense de ne pas honorer une visite programmée. Et Jean-Marc Ayrault aussi était prié de rester à Paris et ne pas aller à Varsovie. Alors c'est important parce que Varsovie, jusqu'à maintenant, était toujours le partenaire européen qui avait le plus poussé et le plus demandé de se méfier des Russes. D'ailleurs, la brigade franco-allemande va s'installer en Lituanie pour aider la mission de l'OTAN de renforcement de la vigilance, comme on dit, vis-à-vis des possibles intrusions russes. Mais improbable, d'ailleurs. Mais donc, je pense que cette séquence... on se fâche avec la Pologne et on laisse à Poutine le choix d'annoncer qu'il ne vient pas. L'un ne s'explique pas l'autre, c'est-à-dire on ne pouvait difficilement, le président Hollande pouvait difficilement, tout en montrant qu'il considérait que ce n'était pas normal que les Polonais ne fassent pas le choix de l'hélicoptère européen construit, Caracal, construit par Airbus, et de choisir, de soutenir uniquement l'industrie d'armement américaine, et en même temps se fâcher ouvertement avec Poutine. D'où ce petit jeu de balançoire où il a dit, voilà, j'hésite, et en même temps, je ne lui ferai pas de cadeau. J'ai trouvé ça, effectivement, plutôt habile.
Un mot sur cette question polonaise, François Bujon.
Oui, sur la question polonaise, Michaela, c'est quand même une affaire grave. Je veux dire, ce sont les Polonais qui sont revenus sur les résultats d'un appel d'offres ouvert.
Je suis d'accord. Je trouve
que la diplomatie française a bien fait de se fâcher. Oui. D'ailleurs, la diplomatie allemande pourrait en faire autant, en effet, sur ce sujet.
On aimerait qu'elle en fasse autant.
Oui.
Très bien, eh bien, le message est passé.
Car l'hélicoptère est quand même 50-50, comme on dit en franco-allemand.
Je vous propose, dans la série des massacres auxquels nous nous habituons tranquillement, je vous propose qu'on dise un mot du Yémen et donc de l'Arabie Saoudite. On sait qu'il y a un nouveau souverain depuis la mort du roi Abdallah en 2015, son demi-frère Salman, que ce demi-frère a marqué son avènement par d'importants changements, le limogeage des deux fils de son prédécesseur et la nomination de l'un de ses propres fils au poste de ministre de la Défense et de président du Conseil économique du Royaume. Le nouveau souverain doit également faire face à des défis susceptibles de le déstabiliser et de déstabiliser son pays. L'économie du premier exportateur de pétrole est confrontée à une baisse très importante des prix du baril, qui est passé de 114 dollars en juin 2014 à environ 50 dollars ces derniers mois. Un plan visant à réduire la dépendance de Riyad à une rente qui finance 90% de ses revenus a été présenté dans l'objectif de réduire le déficit budgétaire, qui est estimé à 98 milliards de dollars, c'est-à-dire à 15% du PIB de l'Arabie Saoudite. Le gouvernement a annoncé la mise en place d'une TVA, la vente de 5% de la compagnie pétrolière nationale Aramco, une baisse des salaires des fonctionnaires et paradoxalement, l'Arabie Saoudite n'est pas étrangère à la baisse du cours de l'or noir qu'elle a utilisé comme levier pour contrer l'accroissement de la production des huiles de schiste américains et l'augmentation de la production de pétrole iranien. La rivalité entre l'Arabie Saoudite et l'Iran s'est imposée comme un élément clé de la géopolitique régionale. La dynastie des Saouds s'affirme comme le héros des musulmans sunnites, forte de son statut de gardien des lieux saints, et elle redoute le retour de l'Iran chiite sur la scène internationale consacrée par l'accord de janvier 2015 sur le nucléaire. Cette opposition irrigue le conflit syrien où l'Arabie Saoudite soutient des groupes rebelles face aux forces du régime de Bachar el-Assad, soutenu par Téhéran et le Hezbollah libanais. Elle a également provoqué l'intervention saoudienne dans la guerre civile yéménite où elle bombarde les rebelles chiites houthistes qu'elle considère manipulés par l'Iran depuis mars 2015. L'interventionnisme brutal de l'Arabie Saoudite ainsi que sa politique de diffusion du salafisme auprès des musulmans du monde a récemment provoqué des réactions des pays occidentaux. Les relations avec son allié historique américain se sont continuellement dégradées depuis l'accord sur le nucléaire iranien, alors que le Congrès a légalement autorisé les proches des victimes des attentats du 11 septembre 2001 à poursuivre les États impliqués dans le terrorisme. Après le bombardement du 8 octobre, qui a causé la mort de plus de 140 civils, le Conseil national de sécurité américain a décidé de réexaminer son soutien à l'intervention saoudienne au Yémen et affirmé que cette coopération n'était pas un chèque en blanc. Sur cette question, Nicole Niesoto.
Alors, l'Arabie Saoudite, c'est quand même une accumulation d'énigmes. Il y a notamment deux questions que l'on peut se poser sur ce pays. C'est pourquoi l'Arabie Saoudite entretient-elle des liens si opaques, si ambigus, si contradictoires avec l'islamisme radical et les groupes terroristes? Et deuxièmement, pourquoi les Américains et l'Occident en général, Europe compris, entretient-il des liens aussi ambigus et contradictoires avec ce pays? Et ça, ce sont me semble-t-il, les deux énigmes qui fondent l'importance internationale de l'Arabie Saoudite. Alors, je crois que si on veut comprendre, d'abord, il faut se dire qu'il y a deux structures de ligne de force dans la politique de l'Arabie Saoudite. D'abord, il y a une ligne de force stratégique tout à fait traditionnelle qui est l'opposition depuis très longtemps qui l'oppose à l'Iran pour le partage géopolitique stratégique de la zone du Moyen-Orient. Je rappelle que ces pays ont des réserves de pétrole et de gaz absolument colossales. L'Arabie Saoudite, c'est quand même 22% des réserves de pétrole mondial et l'Iran, c'est 18% des réserves de gaz mondial. Donc ce sont deux pays ennemis traditionnellement, et cette rivalité traverse pratiquement tout le XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Deuxième ligne de force de l'Arabie Saoudite, à côté de cette ligne géostratégique traditionnelle, qui est une ligne de force idéologique, religieuse, l'Arabie Saoudite veut apparaître au sein du monde sunnite qu'elle représente comme le leader, le propagateur d'une mouvance extrêmement dure, radicale, traditionnaliste de l'islam, qui est la mouvance wahhabite. Et donc la politique de l'Arabie Saoudite se comprend si on mélange ces deux lignes, l'opposition traditionnelle à l'Iran et donc au chiisme, et au sein du monde sunnite qu'elle incarne, la défense, la propagation d'une partie extrêmement dure, radicale du wahhabisme. Et c'est cette idéologie religieuse, cette diplomatie religieuse qui l'amène à flirter de façon à la fois réelle et dangereuse avec les groupes d'inspiration radicale, en particulier avec l'État islamique. Alors, quand même, la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite, c'est un investissement colossal. Ce sont des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars qui sont investis culturellement dans la construction d'écoles, de mosquées. Il y a à peu près 7000 mosquées dans l'Asie et en Afrique qui sont financées par l'Arabie Saoudite. C'est un instrument de propagande qui est censé regrouper à peu près 60 millions de musulmans, et c'est là, en développant ce terreau wahhabiste au sein du monde sunnite, que l'Arabie Saoudite flirte avec et prépare le terrain pour la conversion d'une bonne partie des musulmans à cette idéologie radicale. Alors je vois que Philippe me fait un signe. J'ai pas le temps de parler ma deuxième énigme, c'est pourquoi les États-Unis et les Américains sont si attachés à ce pays. Énormément de raisons. Ça repose sur un pacte qui est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire l'Amérique assure la sécurité de l'Arabie Saoudite. En échange, ils ont un accès illimité au pétrole. Ce pacte, il a été reconduit en 2005. Il s'effrite de plus en plus, ne serait-ce que parce que les Saoudiens voient bien que l'Iran redevient une carte maîtresse dans la diplomatie américaine. Mais il y a au moins, je termine là-dessus, il y a quatre raisons, me semble-t-il, pour lesquelles les Américains n'abandonneront pas les Saoudiens. C'est que, premièrement, Israël est dans la région, et que donc la sécurité d'Israël est une obsession pour les Américains. Deuxièmement, le marché du pétrole est un marché mondial. Et troisièmement, la Chine et la Russie sont des puissances au Moyen-Orient. Et je n'ai pas le temps de dire ma quatrième.
Mais si, la quatrième. Vous avez dit les trois premières. Dites-nous la quatrième, nous allons périr de suspense.
Parce que les Saoudiens détiennent des avoirs considérables américains, plus des centaines de milliards d'euros du trésor américain.
Michael Avigal.
Oui, alors la relation avec l'Arabie Saoudite, je pense que les États-Unis, tels qu'ils sont actuellement préoccupés de leur propre présidentielle, en laisse un peu faire, et on l'a vu avec l'intervention de l'Arabie Saoudite au Yémen. Il y a eu des condamnations, mais en même temps, on laisse faire, et on a l'impression que on apprend qu'à compte-gouttes ce qui se passe réellement. Il y a eu ces bavures avérées qui a obligé d'ailleurs l'ONG française Médecins Sans Frontières de retirer une bonne partie de son personnel. Et donc ce conflit au Yémen, je pense, il est assez symptomatique pour la façon d'agir de l'Arabie Saoudite. C'est jamais très présent dans l'opinion publique mondiale, et on en apprend toujours que très peu d'éléments pour vraiment se former un jugement. Et c'est un petit peu comme ça que je définirais aussi l'influence de l'Arabie Saoudite en Europe. L'Arabie Saoudite a beaucoup investi en Allemagne aussi, et aujourd'hui on pose la question aussi, vu qu'on va avoir une population musulmane plus importante que dans le passé, et non plus gérée seulement majoritairement par la Turquie, par de l'argent turc, on se pose la question justement comment contrôler l'argent qui afflue de l'Arabie Saoudite aussi en Allemagne pour la construction de mosquées, pour le financement des centres religieux. Et je crois que ça, c'est une question qui reste quand même très présente aussi en France. Et je crois que ça va être une des grandes questions pour les débats présidentiels pour réorganiser l'islam.
Thierry Pêche.
Écoutez, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions, mais je me demande si ce qu'on appelle l'Arabie Saoudite est aussi unie qu'on le suggère ou qu'on semble le penser. Je me demande si le régime n'est pas plus fragile qu'il n'en a l'air. C'est pas un régime si unifié que ça. Vous savez, il y a plusieurs tribus au sein de l'Arabie Saoudite qui ne s'entendent pas toujours très bien. La guerre au Yémen est beaucoup plus longue que prévu, beaucoup plus difficile, beaucoup plus coûteuse, avec des interventions extrêmement sanglantes. La relation avec les États-Unis se dégrade et ça a beaucoup de conséquences. Hein. La montée en puissance de l'Iran dans la région, évidemment, les inquiète beaucoup. Et puis, il y a Bon, la police religieuse, hein, vous savez qu'il existe une police religieuse en Arabie Saoudite, n'est pas toujours très obéissante. Elle a d'ailleurs été plutôt rabaissée par le nouveau souverain. Et puis, il y a une bataille d'influence aujourd'hui au sein du régime entre le prince vice-héritier qui est actuellement le ministre de la Défense, qui est sur une ligne dure au Yémen, qui porte un projet, je crois que ça s'appelle Arabie Saoudite 2030, qui est une vraie vision pour le pays à plus long terme, avec d'ailleurs des ambitions de transformation sociétale à destination des femmes. Alors, c'est jamais assez aux yeux des Occidentaux, mais enfin, il veut se donner un visage plus moderne. Et donc moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'Arabie Saoudite est vraiment pas est-ce qu'elle n'est pas finalement dans un moment de fragilité de son histoire qui d'ailleurs ne serait pas une bonne nouvelle pour la région.
François Bujon de l'Étang.
Oui, moi je vais amplifier ce qui vient d'être dit par Thierry, parce que je pense que l'Arabie Saoudite, sans aucun doute, traverse une mauvaise passe pour l'instant, sur le plan économique, politique. Elle est engagée dans une mauvaise aventure au Yémen, elle souffre de la baisse des prix pétroliers, parce que ses revenus sont en baisse, et que du coup... Mais au-delà de tout cela, je pense que elle souffre de maux qui sont profonds et qui sont endémiques. D'abord, elle a un système politique qui est sclérosé, parce que ce système des princes qui ont conclu un pacte avec le clergé wahhabite, mais ce système de succession monarchique par les frères, n'est-ce pas, qui fait qu'on ne passe pas d'une génération à l'autre et qu'il n'y a pas de relève. Il n'y avait pas jusqu'à l'arrivée de Mohammed bin Salman comme homme fort de succession monarchique avec relève générationnelle. Tout ceci est un système clérosé qui ne marche plus avec la globalisation, la marche du temps, l'éducation croissante des élites saoudiennes, leur occidentalisation. Et c'est certainement un problème très, très profond et grave. Et puis, cet équilibre du pouvoir entre les princes, d'un côté, qui ont une politique pro-occidentale, symbolisée par le pacte du Quincy, jadis, dont Nicole a parlé, et le clergé wahhabite, à qui on laisse faire à peu près ce qu'il veut, avec l'argent, d'ailleurs, fourni par les princes, et qui nourrit un prosélytisme salafiste dans le reste du monde, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer parce que, finalement, cette contradiction explose aux yeux de tous, et que la fameuse diplomatie religieuse dont vous parliez, Nicole, qui a, dit-on, permis, moyennant 100 milliards de dollars, de multiplier les centres islamiques, les madrassas, les mosquées dans le reste du monde, ne passe plus très bien. Le 11 septembre, par exemple, le développement de Daesh et de ses activités, tout ceci a attiré l'attention sur ce financement saoudien, et ceci n'est plus tolérable, comme le montrent les derniers développements au Congrès des États-Unis. Dont nous dirons peut-être un mot. Alors, j'ajoute à tout ça que le modèle économique saoudien n'est plus viable. C'est un modèle qui reposait, une fois encore, sur des revenus pétroliers qui nourrissent 90% des recettes du royaume. Et quand l'Arabie saoudite s'engage dans une guerre contre l'Iran qui l'amène à baisser la production générale de l'OPEP ou contre les producteurs américains de pétrole de schiste et que les revenus baissent, c'est tout le régime de protection sociale saoudienne qui est remise en cause, d'où le plan de transformation nationale, c'est comme ça qu'il l'appelle, du prince Mohammed bin Salman, qui veut essayer de tirer l'Arabie Saoudite vers une plus grande diversification économique et aller jusqu'à mettre 5% de Saudi Aramco sur le marché, avec des idées de cotation d'ailleurs à Wall Street. Je lui souhaite bonne chance, parce qu'il ne se rend probablement pas compte des ennuis qui l'attendent dans ce domaine. Ajoutons à tout cela, en termes géopolitiques, que la suprématie de l'Arabie Saoudite dans le Golfe est complètement menacée par l'Iran, par le réveil de l'Iran, et par cette espèce de changement stratégique, de basculement stratégique choisi par les Américains, qui se sont éloignés de l'Arabie Saoudite pour se rapprocher de l'Iran. La brouille entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis remonte assez loin, a commencé avec les soupçons du 11 septembre, puisque quand même 15 15 des 19 terroristes du 11 septembre étaient de nationalité saoudienne et que ça a semé le doute aux États-Unis. Ça s'est poursuivi avec les printemps arabes où les princes saoudiens ont très très mal vécu l'abandon de Moubarak et accessoirement de Ben Ali par les États-Unis. Et ça s'est évidemment beaucoup aggravé avec l'accord de juillet 2015, l'accord nucléaire avec l'Iran, qui donne l'impression de ce basculement stratégique. Donc il y a pour l'instant un très grand mécontentement, le mot est même trop faible, il y a une espèce de fureur des dirigeants saoudiens contre les États-Unis d'Amérique, qui accentue cette impression de basculement stratégique que la guerre de Syrie elle-même met en évidence, puisque au contour de Bachar el-Assad, vous voyez à peu près tous les ennemis de l'Arabie saoudite. Vous voyez la Russie, vous voyez le Hezbollah libanais, vous voyez les Pasdaran iraniens, tout ceci constituant évidemment une espèce de sainte alliance des ennemis de l'Arabie saoudite. Donc on comprend le malaise, le trouble profond des dirigeants saoudiens aujourd'hui. Ajoutons à cela, si vous permettez, un tout dernier élément. Le Congrès des États-Unis vient de voter une loi, passablement scélérate d'ailleurs, puisqu'elle mettrait fin, si on l'appliquait, au principe de l'immunité souveraine des États, qui est un des axes cardinaux du droit international, une loi qu'on appelle JASTA, ce qui veut dire Justice Against Sponsors of Terrorism Act, permettant aux familles des victimes du 11 septembre de poursuivre l'État saoudien.
Nicole Nézoto.
Oui. Je ne sais pas si le régime est affaibli de l'intérieur, parce que je crois qu'on a quand même peu d'éléments sur le débat, entre guillemets, un peu comme le débat entre Medvedev et Poutine. Je ne sais pas si ça représente une vraie opposition, mais ce qui est certain, c'est que l'évolution, tout simplement, du contexte géostratégique régional et voire américain, ne joue pas en faveur de l'Arabie saoudite en ce moment. Donc, il y a bien sûr l'accord sur l'Iran dont on a déjà parlé, mais il y a quand même d'autres signes qui montrent que la carte saoudienne devient stratégiquement moins importante. Il y a l'exploitation par les Américains des gaz de schiste et l'utilisation peut-être de ces gaz non conventionnels pour accroître l'autonomie énergétique des États-Unis. Les Américains sont censés être autonomes à l'horizon 2030. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, très certainement pour les Saoudiens, plus la baisse des prix du pétrole, il y a là un élément qui fragilise leur cœur de pouvoir. Il y a le fait que depuis les révolutions arabes, les Américains se sont montrés très cyniques. Ils ont lâché, par exemple, l'Égypte de Moubarak en 2011, et donc les Saoudiens peuvent se dire ils nous lâcheront un jour. Il y a le fait, François, vous en avez parlé, qu'il y a un vrai, maintenant, lobby anti-saoudien aux États-Unis qui commence à monter sur le lien avec le terrorisme. Donc tout ça fait que les Saoudiens ont des raisons de s'inquiéter. Mais moi, je voudrais dire, comme Michaela, que les Européens devraient s'inquiéter, parce que c'est quand même, pour l'instant, encore notre allié, et c'est un allié terrible, c'est une des pires dictatures de la planète. La condition des femmes est abominable. Je rappelle que c'est un pays qui utilise la peine de mort et par décapitation. En 2015, il y a eu 154 décapitations en Arabie Saoudite et ça reste notre meilleur allié.
Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves que je vais introduire en faisant pour la deuxième fois quelque chose que je ne pouvais pas espérer pouvoir faire. Je vais dire du bien de Philippe Meyer. Malheureusement, ça n'est pas de moi. C'est d'un Américain qui s'appelle Philippe Sans E à la fin Meyer, dont j'avais souligné tout l'intérêt du premier livre, qui s'intitulait « Un arrière-goût de rouille » et qui avait paru chez De Noël. C'est un romancier remarquable, c'est un constructeur de romans tout à fait remarquable et très original. Et j'ai lu là un livre qui a d'ailleurs paru il y a quelque temps, puisque je l'ai lu en édition de poche, qui s'appelle « Un fils », qui est un autre portrait de l'Amérique, lui aussi avec une construction extrêmement originale. C'est 150 ans de l'Amérique et de ce qui, dans l'Amérique, est le plus... le plus prédateur de la nature, le plus prédateur des hommes, mais tout ça est fait avec une extrême subtilité, une documentation tout à fait extraordinaire et qui en même temps est absolument fluide. Ça s'appelle donc « Un fils » de Philippe Meyer. Michaela Wiegel.
Oui, pour tous ceux qui veulent aller plus loin dans la connaissance des réseaux russophiles en France, je recommande le livre de l'universitaire Cécile Vessier, Les réseaux du Kremlin en France. C'est une recherche très fouillée de toutes les, notamment du côté russe, comment on essaye justement de créer ces réseaux d'influence et qui sont les personnes susceptibles d'avoir répondu à ces tentatives un peu anciennes méthodes soviétiques d'influencer par une soft power russe.
Là, vous nous avez mis l'eau à la bouche et vous ne nous donnez aucun nom. J'aimerais absolument savoir qui sont les membres de la cinquième colonne russe à Paris. Thierry Pêche.
Moi, je vous recommande un livre de Pierre-Yves Gomez qui s'appelle « Intelligence du travail » chez Desclés de Brouwer. C'est paru, ça va paraître, je ne sais pas, je l'ai reçu, donc je ne sais pas s'il est déjà dans les librairies, mais ça ne va pas tarder.
Vous l'avez reçu quand ?
Cette semaine.
Non, il n'est encore pas, sans doute pas encore dans les librairies. Là.
Bon, alors j'en reparlerai peut-être.
On mettra sur le site de l'émission, on donnera sa date de sortie.
Voilà, c'est un beau livre. Les livres sur le travail sont rarement beaux, vous savez, ils sont souvent assez ennuyeux. Et là, c'est un livre inspiré, inspirant. Je le dis d'autant plus volontiers que je ne partage pas toujours la philosophie de ce livre, mais il y a de très belles pages, et comme disait Rancière, réagissant à la misère du monde de Bourdieu il y a bien des années, il disait, il faudrait entendre le bruit de la craie sur le tissu, lorsqu'on parle des milieux laborieux, etc. Et là, on entend le bruit de la craie sur le tissu, et puis il y a de très belles citations, notamment une de Simone Veil que je vous laisse méditer, que pour chacun, son propre travail soit un objet de contemplation.
François Bujon de l'Étang.
Eh bien moi, si vous m'y autorisez, je vais me répéter, ce qui n'est pas un signe de sénilité, pas du tout.
Ça n'est un problème.
Mais c'est une insistance sur la qualité d'un livre que j'ai déjà recommandé il y a 18 mois quand il est sorti. C'est le petit livre de Michel Yelchaninov qui s'appelle « Dans la tête de Vladimir Poutine », paru en 2015 aux élections Actes Sud. J'ai eu l'occasion
aux éditions Actes Sud.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Aux élections.
Aux élections. Non, pas du tout. Non, aux éditions Actes Sud. Pardon de ce lapsus. J'ai eu l'occasion de le reconsulter de nouveau pour préparer l'émission d'aujourd'hui et vraiment je n'ai jamais lu nulle part ailleurs une analyse aussi fouillée, aussi documentée, aussi bien faite de tout le bagage intellectuel et idéologique qui est celui de Vladimir Poutine aujourd'hui, homo sovieticus parfait, mais en même temps continuateur finalement de l'œuvre des tsars à bien des égards. Et Mikaela a très bien parlé de l'inauguration de la cathédrale, mais je voudrais souligner à ce point en revenant là-dessus, à quel point Poutine se situait dans la tradition, car il se souvient certainement que c'est le tsar Alexandre III qui était venu au siècle dernier inaugurer la cathédrale Saint-Alexandre Nevski, qui est toujours rue d'Arrue à Paris et qui obéit, elle, au patriarcat de Constantinople et non pas au patriarcat de Moscou.
Et je vous seconde tout à fait sur ce livre qui est à la fois, qui est d'une grande densité d'ailleurs, d'une grande brièveté aussi. Nicole Niesoto.
Et vous savez sans doute que Poutine essaye de ramener les églises orthodoxes françaises dans l'orbite de l'État russe et du patriarcat russe. Il a déjà réussi d'ailleurs pour l'église de Nice.
Il a réussi à Nice et échoué à Paris.
Oui, mais bon. Bref, moi je voudrais recommander la dernière livraison de la revue Esprit qui vient de sortir, le numéro d'octobre 2016, qui est consacré, dont le dossier est consacré aux États désunis d'Amérique. Alors c'est pas du tout une réflexion sur la politique étrangère, le bilan d'Obama, c'est une réflexion sur la crise du modèle américain à travers la littérature, la peinture, la sociologie, et c'est tout à fait passionnant de montrer comment ces classes moyennes qui ont fondé le modèle américain, c'est-à-dire la promotion des classes moyennes par la consommation et la liberté, se retrouvent aujourd'hui, entre guillemets, les perdantes de la mondialisation, qui jouent plutôt pour la concentration du pouvoir dans une toute petite élite urbaine. Et donc, ce numéro de la revue explique en grande partie, si on s'intéresse aux élections américaines, le phénomène Trump. Pourquoi le phénomène Trump prend-il une telle ampleur ? Parce qu'il repose justement en partie sur cette crise des classes moyennes, représentant elle-même la crise du modèle américain. C'est tout à fait intéressant.
Je vous remercie aux personnes qui se seraient étonnées, peut-être, qui auraient pu être déçues que nous n'abordions pas le débat entre les candidats aux primaires de la droite et du centre. Je dirais qu'il m'a semblé d'abord que les sujets que j'ai choisis pour aujourd'hui, celui du Yémen et des massacres de Sanaa et ailleurs, et celui des massacres en Syrie, semblaient plus importants, et qu'il m'a paru plus sage d'attendre le dernier débat où chacun aura vraiment pu donner sa mesure. Là, il semble bien que les candidats se soient observés, qu'on ait surtout découvert les plus petits d'entre eux qui n'avaient pas souvent l'occasion de passer à la télévision. On voit d'ailleurs comment tout à coup Monsieur Poisson, qui est le président du Parti démocrate chrétien, devient l'objet de toutes les attentions parce que évidemment les médias, et notamment les médias électroniques, sont extrêmement avides de chair fraîche et Monsieur Poisson est aujourd'hui, si j'ose dire en parlant, enfin bref, faisons pas de mauvais jeu de mots sur les noms propres, Monsieur Poisson est aujourd'hui médiatiquement parlant de la chair fraîche. C'était donc l'esprit public. une émission de Philippe Meyer réalisée par Luc Jean Reynaud, préparée avec Augustin Bernard Roudex et Mathieu Farizier, avec aujourd'hui la technique Philippe Palares. Avec qui avez-vous rendez-vous maintenant? Avec Alain Kruger. Et il reçoit un chef, Elio Bombace, qui est napolitain et qui propose dans un restaurant de la rue Molière à Paris, qui tient dans une toute petite boutique, qui était l'ancienne boutique d'un parfumeur, il propose des plats de la campagne rustique, aussi bien d'ailleurs de la terre et de la mer, et qu'il appelle cucina povera, comme l'arte povera. Donc, je vous laisse entre les bras d'Alain Kruger pour cette émission consacrée à la cuisine napolitaine, et j'espère vous retrouver la semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne pour une nouvelle édition de L'Esprit Public.